La Bible révèle que la fin de toutes choses est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ.
Combien de personnes ici croient que la Bible est la parole de Dieu? Est-ce que je peux voir les mains levées? OK, tout le monde. Amen. Amen. Rendons-nous ensemble en Matthieu, chapitre 15, et lisons les 9 premiers versets de ce passage de l'Évangile. Où allons-nous? Matthieu 15, versets 1 à 9. Alors, des scribes et des pharisiens vinrent de Jérusalem à Jésus et lui dirent, « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent point les mains lorsqu'ils prennent leur repas. » Mais il leur répondit, « Et pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu par votre tradition? Car Dieu a donné ce commandement, « Honore ton père et ta mère, et que celui qui maudira son père ou sa mère soit puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui aura dit tout du moins à son père ou à sa mère, « Ce dont je pourrais t'assister est un don consacré à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. » Et ainsi, vous avez anéanti le commandement de Dieu par votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé à votre sujet lorsqu'il a dit « Ce peuple s'approche de moi de la bouche et m'honore des lèvres, mais leur cœur est bien éloigné de moi. Mais ils m'honorent en vain, en enseignant des doctrines qui sont des commandements d'hommes. » Les scribes et les pharisiens à l'époque de Jésus avaient des enseignements qui venaient s'opposer aux commandements de Dieu. Et ils avaient ce que l'on appelle des traditions. Okay? Et ces traditions étaient contraires. Lorsqu'on les suivait, lorsqu'on les acceptait et lorsqu'on y croyait, cela nous conduisait à transgresser la loi de Dieu. Et donc, nous mettait ceux qui étaient sous ces traditions à honorer Dieu en vain. Et voyez-vous, lorsque Jésus, le doux et aimable Jésus, nous dit qu'il nous aime, est-ce que cela ne touche pas vos cœurs? Amen. Mais si ce Jésus devait vous dire que vous êtes un hypocrite, ne devriez-vous pas réfléchir et vous dire quelle est ma condition? Qui sont aujourd'hui, est-ce que nous avons des exemples aujourd'hui de cette situation-là? À savoir que nous avons des enseignements, des traditions qui sont établies et qui, lorsque nous les acceptons, eh bien, nous mettent en opposition avec la parole de Dieu. Vous savez, en 321 après Jésus-Christ, le repos du sabbat fut transféré au dimanche par Constantin. Et dans un ouvrage intitulé « A Doctrinal Catechism » à la page 174, les autorités de l'Église de Rome ont déclaré, et c'est un ouvrage de questions-réponses, alors la question est, avez-vous une autre manière de prouver que l'Église, et là on fait allusion à l'Église de Rome, a le pouvoir d'instituer des festivités ou des préceptes? Et la réponse est, si elle n'avait pas un tel pouvoir, elle n'aurait pas pu substituer l'observation du dimanche, le premier jour de la semaine, à celle du samedi, le septième jour. Un changement pour lequel il n'existe aucune autorité scripturaire. Notez ici que l'Église de Rome reconnaît qu'il n'y a pas d'autorité scripturaire pour la sanctification du dimanche. Les adventistes du septième jour n'ont pas décrété cela, que le sabbat avait bien lieu le samedi, du vendredi coucher du soleil au samedi coucher du soleil. Mais la Bible le déclare et les autorités de l'Église de Rome le reconnaissent, voyez-vous. Cela est un exemple. Un exemple, eh bien, de tradition, mes amis. Que si nous les suivons, eh bien, malheureusement, les paroles de Jésus en Matthieu 15, versets 1 à 9 sont pour nous. Hypocrites. Ésaïe a bien prophétisé à votre sujet lorsqu'il a dit « Ce peuple s'approche de moi de la bouche et mon nom des lèvres, mais leur cœur est bien éloigné de moi. Ils m'honorent en enseignant des doctrines qui sont des commandements d'hommes. » Mais ce n'est pas tout, mes amis. En 325 après Jésus-Christ, la coégalité et la coéternité du Père et du Fils furent établies lors du concile de Nicée, lequel concile fut présidé par Constantin, qui était devenu un observateur du dimanche. Et en 380 après Jésus-Christ, l'Église de Rome a élevé le Saint-Esprit au statut de personne coégale et coéternelle avec le Père et le Fils lors du concile de Constantinople. Et à propos du résultat de ces conciles, une autorité catholique a déclaré dans un journal américain qui s'intitule Life, et dans ce journal, en fait, on parle de choses diverses et variées. Et il y a différentes autorités. Des fois, des autorités catholiques font des déclarations, des fois, des autorités même civiles. En fait, c'est un journal qui déclare ou qui regroupe beaucoup d'informations concernant ce qui se passe par ici et par là. Et dans ce magazine, en fait, Life Magazine, le 30 octobre de l'année 1950, les autorités catholiques des États-Unis ont déclaré « Nos opposants affirment parfois qu'aucune croyance ne devrait être un dogme si elle n'est pas explicitement formulée dans l'Écriture. » Lorsqu'il dit ici les opposants, ce sont les protestants. D'accord ? Qu'en tant que chrétiens, vos croyances doivent provenir des Écritures. Mais les églises protestantes ont elles-mêmes accepté de tels dogmes, comme la Trinité, pour laquelle il n'y a pas d'autorité précise dans les évangiles. Qu'est-ce que déclare l'autorité catholique ici? Qu'il n'y a pas d'autorité précise dans les évangiles pour soutenir le dogme de la Trinité. Quand j'ai commencé ma présentation, je vous ai posé la question, est-ce que vous croyez que la Bible est la parole de Dieu? Mais il y a une question que je ne vous ai pas posée, et c'est la question la plus importante. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu, mes amis, au point de prendre en considération ce qu'elle nous dit plutôt de ce que les traditions que les hommes ont établies? En affirmant cela, l'Église de Rome reconnaît que le fondement de son enseignement ne se trouve pas dans la Bible. Dans l'ouvrage « Handbook for Today's Catholic » à la page 12, et en fait c'est le manuel pour les catholiques d'aujourd'hui, si je traduis le titre, eh bien, les autorités de l'Église de Rome ont déclaré le mystère de la Trinité est la doctrine centrale de la foi catholique sur laquelle se fondent toutes les autres doctrines de l'Église. D'accord? Arrêtons-nous ici un instant. Rappelez-vous tout à l'heure que les autorités de l'Église de Rome ont déclaré qu'il n'y avait pas de fondement scripturaire pour cette doctrine. Et là, ils reconnaissent que cette doctrine dogmatique et en fait, et sans fondement scripturaire, est le fondement de toutes les autres doctrines de l'Église. Ok, continuons. L'Église étudia ce mystère avec un soin particulier. Et après 4 siècles de clarification, Jésus-Christ décida... L'apôtre Paul décida... Elle, c'est-à-dire l'Église, décida de définir la doctrine de la façon suivante. Excusez-moi, normalement, c'est la Bible qui définit la doctrine. OK, ici, c'est l'Église qui définit la doctrine. Décida de définir la doctrine de la façon suivante. Dans l'unité de la divinité, il y a 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, réellement distinctes les unes des autres. Ainsi, dans les termes du credo d'Athanase, le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. Et pourtant, il n'y a pas 3 dieux, mais 1 Dieu. En Actes, chapitre 20, remarquez qu'ici, il est question de 4 siècles. Il a fallu 4 siècles pour que cette doctrine soit mise au point. Rendons-nous en Actes 20 et considérons les versets 29 et 30. Où allons-nous? Acte 20, versets 29 et 30. Car, et l'apôtre Paul déclara aux anciens d'Éphèse, « Car je sais qu'après mon départ, il s'introduira parmi vous des loups ravissants qui n'épargneront point le troupeau, et qu'il s'élèvera parmi vous des hommes qui annonceront des doctrines pernicieuses afin d'attirer les disciples après eux. » Vous savez, lorsque Dieu suscita le peuple adventiste vers la fin, vers tout du moins la moitié du 19e siècle, il les conduisit à retourner à la compréhension biblique concernant le Saint-Esprit. En effet, dans les principes fondamentaux des adventistes du 7e jour de l'année 1889, eh bien, les croyances de l'Église adventiste officielle étaient la suivante concernant Dieu. Qu'il n'y a un seul Dieu, un être personnel, spirituel, le créateur de toutes choses, omniprésent, omniscient et éternel, infini en sagesse, en sainteté, en justice, en bonté, en vérité et en miséricorde, immuable et partout présent par son représentant, le Saint-Esprit. Et on cite le psaume 139, verset 7. Mais voyez-vous, la croyance fondamentale numéro 2 de la dénomination des adventistes du 7e jour aujourd'hui fait étrangement écho au concile de Constantinople. En effet, j'ai mis le lien pour vous, mais vous pouvez le consulter dans n'importe quel ouvrage officiel adventiste que vous trouvez dans les librairies de la dénomination, la Trinité. Il y a un seul Dieu, deux points. Père, Fils et Saint-Esprit. Unité de trois personnes co-éternelles. Voilà quelle est la croyance, la position de l'Église officielle, l'Église adventiste, aujourd'hui. Nous sommes passés de cela à cela. Et cela, voyez-vous, l'Église de Rome déclare qu'il n'y a pas de fondement scripturaire pour cela. Vous savez, dans l'Ancien Testament, dans l'hébreu, il y a deux termes qui sont employés de manière interchangeable. Et ces termes sont ruach et neshama. Okay? Et j'aimerais vous montrer comment ces termes sont employés dans la Bible de manière interchangeable. Rendez-vous, je vous prie avec moi, en Job 27, verset 3. Où allons-nous? Job 27, verset 3. Car le thème de notre présentation est le Saint-Esprit. Après cette introduction, pour vous montrer le conflit qu'il y a concernant cet enseignement, ce point d'enseignement de la Bible, eh bien, nous devons maintenant ouvrir nos Bibles, car la Bible est la parole de Dieu. Or, seul Dieu peut nous dire ce qu'il en est. Job 27, verset 3, et là, il nous est dit, eh bien, tant qu'un souffle me restera, tant que l'Esprit de Dieu sera dans mes narines. OK? Ici, le mot souffle provient de Neshama, tandis que le mot esprit provient de Ruach. Considérons maintenant Job 33, verset 4. Où allons-nous? Job 33, verset 4. C'est exact. Et là, nous lisons. C'est l'esprit. Et là, le mot esprit, ici présent, c'est Ruach. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a fait. C'est le souffle, c'est-à-dire Neshama en hébreu. C'est le souffle du Dieu puissant qui m'a donné la vie. Remarquez dans ces deux versets que nous avons pris que ce mot, ces deux mots hébreux, Ruach et Neshama, ou en français, souffle et esprit, sont employés de manière interchangeable. D'accord? Et pourquoi cela? C'est parce qu'en réalité, mes amis, ces deux termes sont synonymes. Rendons-nous pour voir cela en Genèse, chapitre 2, verset 7. Où allons-nous? Genèse, chapitre 2, verset 7. Remarquez cela. Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines une respiration de vie. et l'homme devient une âme vivante. Il est dit que Dieu souffle dans ses narines une respiration de vie. Le terme qui est à l'origine de respiration ici, c'est neshama. Et Genèse 6, verset 17, nous montre le synonyme qui va avec. Et remarquez comment Ruach est présent en Genèse 6, verset 17 maintenant. Et moi, voici, je vais amener le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair qui a souffle de vie, Ruach, de dessous les cieux. Tout ce qui est sur la terre expirera. D'accord? Donc, nous voyons bien ici que ces termes sont employés de manière interchangeable. Donc, dans la Bible, esprit peut être équivalent à souffle, n'est-ce pas? C'est ce que nous avons vu, ok? Maintenant, après avoir considéré ce que nous voyons dans l'Ancien Testament, dans l'hébreu, j'aimerais vous montrer quelque chose dans le Nouveau Testament, dans le grec. Et le terme équivalent à ruach, c'est le mot pneuma, en fait. Et ces termes, voyez-vous, pneuma et ruach sont employés de manière très similaire. Et notez par exemple ce que nous lisons en Romains chapitre 11, verset 34. Et en Romains chapitre 11, verset 34, l'apôtre Paul cite l'Ancien Testament ou Ésaïe, il cite très précisément Ésaïe 40, verset 13. Notez-le, il cite Ésaïe 40, verset 13. Et en Ésaïe 40, verset 13, c'est ruach qui est présent. Mais l'apôtre Paul va employer un terme grec que je vous ai déjà mentionné, qui est en fait pneuma. Romains 11, verset 34. Et là, il est dit, l'apôtre Paul cite Ésaïe 40, verset 13, en disant, car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Ah, ici, nous avons l'équivalent de ruach, pneuma, qui est traduit par la pensée, d'accord? Donc, esprit, souffle, pensée, voilà des définitions de ce que le mot esprit signifie. Et il y en a encore une autre que j'aimerais vous présenter. Elle nous est très clairement indiquée en Colossiens, chapitre 2, verset 5. Qu'est-ce que j'ai dit? Colossiens, chapitre 2, verset 5. OK. Remarquez. Car si je suis absent de corps, je suis pourtant avec vous en esprit, pneuma, OK? Me réjouissant de voir parmi vous le bon ordre et la fermeté de votre foi en Christ. L'apôtre Paul disait qu'il était avec eux en esprit, d'accord? Donc, il s'agit là ici, en fait, de sa personne intérieure, en fait, OK? Lorsque, vous savez, dans la Bible, dans les psaumes, il nous est dit que les enfants d'Israël ont irrité l'esprit de Moïse, n'est-ce pas? Lorsque le texte vous dit qu'ils ont irrité l'esprit de Moïse, qui est-ce qu'ils ont irrité, les enfants d'Israël? C'est Moïse lui-même, d'accord. Maintenant, en Daniel chapitre 2, nous connaissons le roi Nebuchadnezzar, et il nous est dit qu'il a eu des songes durant la nuit, et le texte nous précise, et vérifiez-le chez vous, le texte nous dit que son esprit, il le dit, moi, Nebuchadnezzar, mon esprit fut troublé. Lorsqu'il dit que mon esprit fut troublé, qui est-ce qui était troublé? Nebuchadnezzar. Donc, c'est sa pensée, en fait. C'est lui-même, c'est son être intérieur, en fait. D'accord? Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Lorsqu'on parle de l'esprit de Nebuchadnezzar, on ne fait pas allusion aux frères jumeaux de Nebuchadnezzar. Lorsque les enfants d'Israël ont hérité l'esprit de Moïse, il n'était pas en train d'irriter Aaron, son frère, n'est-ce pas? D'accord. L'esprit, mes amis, c'est le souffle, la pensée, la personne intérieure de Dieu. Et voyez-vous, nous avons des textes qui nous indiquent de manière très claire que l'esprit, c'est également la parole. Remarquez avec moi Jean chapitre 6, verset 63. Où allons-nous? OK. À quelle heure je dois m'arrêter, frère? À 11h? 11h05? Jean 6, verset 63. Je m'arrête à 11h30. Parce que là, ça fait même pas 30 minutes que je présente. Jean 6, 63. Là, nous lisons, « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » D'accord? Et c'est ce que nous avons aussi en Proverbe. Proverbe 1, verset 23. Où allons-nous maintenant? OK. Proverbe 1, verset 23. Et notez, pensez bien à noter les versets pour voir ce que la Bible nous dit. Non pas un concile qui a eu lieu au 3e ou 4e siècle, mais ce que la Bible nous dit, mes amis. Proverbe 1, verset 23. « Étant repris par moi, convertissez-vous. Voici, je vous communiquerai de mon esprit en abondance, je vous ferai comprendre mes paroles. » En nous donnant sa parole, mes amis, Dieu nous donne son esprit. Et Deutéronome 32, verset 2, le confirme encore. Et là, nous avons trois textes, mes amis, non pas un seul, deux, nous avons trois textes au minimum. Deutéronome 32, verset 2. Et je lirai à partir du verset 1er. Pour que nous puissions avoir un peu de contexte. Oui, il dit, « Cieux, prêtez l'oreille, et je parlerai, et que la terre écoute les paroles de ma bouche. Ma doctrine coulera comme la pluie. Ma parole tombera comme la rosée, comme des ondées sous la verdure, comme des pluies abondantes sur l'herbe. » D'accord? Voyez-vous, nous savons, de par l'expérience de la Pentecôte, que eh bien, la réception de l'esprit est comparée à la pluie, n'est-ce pas? OK? La pluie de la première et de l'arrière-saison. Et nous savons que lorsque cela a lieu, eh bien, c'est l'effusion du Saint-Esprit qui se produit. Or, ici, Dieu dit que sa doctrine coulera comme la pluie. Sa doctrine, son enseignement, sa parole. La parole de Dieu. Ayant établi cela, j'aimerais maintenant vous parler un peu de Dieu. Vous savez, avec le pasteur Allen, nous avons vu en Genèse chapitre 1, verset 6, que l'homme a été créé à l'image de Dieu, n'est-ce pas? Et d'après les Écritures, nous savons que Dieu est esprit. En effet, en Jean 4, verset 24, Jésus nous dit que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Mais permettez-moi de vous dire que de Dieu, il n'y a pas que l'esprit, mes amis. Dieu n'est pas qu'esprit. Le texte ne dit pas que Dieu n'est qu'esprit. Jésus dit que Dieu est esprit. Et la raison pour laquelle je dis cela, c'est parce que la Bible nous dit que Dieu a une forme. Et permettez-moi l'expression, il a un corps. Rendons-nous en Daniel, chapitre 7, versets 9 et 13. Parce que, voyez-vous, le Dieu de la Bible, mes amis, ce n'est pas un être impersonnel. Qu'est-ce que j'ai dit? Le Dieu de la Bible n'est pas un être impersonnel. C'est un être personnel, mes amis. Daniel, chapitre 7, versets 9 et 13. « Je regardais, dit-il, jusqu'à ce que des trônes furent placés et que l'ancien des jours s'assit. » Là, on fait allusion à qui? Au Très-Haut. À Dieu, mes amis. S'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, ses roues comme un feu ardent. Et le verset 13. Je regardais dans les visions de la nuit et je vis comme le Fils de l'homme. Et là, on sait qu'il est fait allusion à Jésus, ok? Qui venait sous les nuées des cieux et il vint jusqu'à l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. Si Dieu n'était qu'un pur esprit, est-ce que vous pensez que nous aurions pu avoir des textes comme ça dans la Bible? Non, mes amis. Donc, si nous faisons la synthèse de cela, Dieu, l'être que nous appelons Dieu, il a un esprit mais il a aussi un corps, une forme, n'est-ce pas? C'est ce que la Bible enseigne, mes amis. Ce n'est pas ce que je vous dis, d'accord? C'est marqué ici. Ce n'est pas une tradition qui a été établie dans un concile, je ne sais pas quand. C'est dans la Bible, d'accord? Et vous savez, Ellen White va dans le même sens. En effet, dans la tragédie des siècles, à la page 689, paragraphe 3, au commencement, l'homme avait été créé à l'image de Dieu, non seulement au moral, mais aussi au physique. Et cette ressemblance, le péché l'a presque entièrement oblitéré. Vous imaginez cela? Mes amis, le Dieu qui est assis sur son trône dans le ciel, physiquement parlant, nous lui ressemblons. Nous n'avons pas une image parfaite de lui, si ce n'est Jésus-Christ, quant à son caractère. Mais nous savons, de par la Bible, de par ce que Daniel nous a dit, et nous avons là une confirmation, d'accord? Cet auteur va dans le même sens de ce que la Bible nous déclare. Et voyez-vous, ici, je m'apprête, durant cette présentation, à citer plusieurs fois cet auteur. Mais remarquez bien comment je vais citer cet auteur. Car avant de citer cet auteur, je vais systématiquement prendre ce qui est marqué dans la Bible. D'accord? De sorte que vous ne pourrez pas dire que je vous ai prêché la doctrine de cet auteur, mais que je vous ai annoncé la doctrine biblique et que je vous ai montré ensuite que cet auteur est d'accord avec ce qu'enseigne la Bible. Car vous savez quoi? Il y a un problème avec beaucoup d'adventistes. C'est que avant de citer la Bible, ils aiment à citer des auteurs. Et je pense que nous avons envie d'être un peuple particulier, n'est-ce pas? Nous avons envie d'être un peuple qui est comme Jésus. Vous savez, Jésus était dans le désert. Et pour résister à Satan, qu'est-ce qu'il faisait? Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Mes amis, si nous ne sommes pas capables de défendre notre foi avec la Bible, nous serons terrassés par Satan. L'Esprit de Dieu est donc son être intérieur, qui n'est pas limité à sa forme physique. Néanmoins, cette ressemblance a ses limites. Seul l'Esprit de Dieu peut avoir une existence consciente, séparée de sa forme physique. Et l'apôtre Paul nous le montre. Il nous compare, eh bien, l'Esprit de Dieu à celui de l'homme, en 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 10 à 16. Voyons-nous. 1 Corinthiens 2, versets 10 à 16. Mais Dieu nous les a révélés par son esprit, car l'esprit sonde toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Car qui est-ce qui connaît ce qui est en l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même aussi, personne ne connaît ce qui est en Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Pour nous, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, pour connaître les choses qui nous ont été données de Dieu. Et nous les annonçons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne le Saint-Esprit, expliquant les choses spirituelles aux spirituels. Or, l'homme animal ne comprend point les choses de l'Esprit de Dieu, car elles lui semblent folie et il ne les peut comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais l'homme spirituel juge de toutes choses et n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Mais nous, nous avons la pensée de Christ. OK? Amen. Et la Bible nous dit ce qu'il en est de l'Esprit. Nous savons que Dieu, il est omniscient, omnipotent et omniprésent. Mais de quelle manière Dieu est omniprésent? C'est-à-dire qu'il est présent, il peut être présent en tout lieu. Et à quel endroit dans la Bible cela nous est indiqué? Le frère Ostélie nous a dit le psaume 139. Amen. Rendons-nous dans le psaume 139 pour voir cela. Psaume 139, versets 7 et 8. Psaume 139, versets 7 et 8. Où, David déclare, où irai-je loin de ton bras, c'est ça? Loin de ta jambe? Loin de tes cheveux? Où irais-je loin de ton esprit? Et où fuirais-je loin de ta face? Verset 8. Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au sépulcre, t'y voilà. Celui qui est assis sous le trône, mes amis, n'est pas présent dans chaque particule, n'est pas présent partout comme cela, de manière corporelle, avec sa forme. C'est par son esprit qu'il est omniprésent et qu'il peut connaître et discerner toutes choses, tout ce qui se passe dans notre cœur, mes amis. Parfois, nous pensons que nous échafaudons des projets mauvais et nous avons des pensées iniques, des fois à l'esprit. On pense qu'il n'y a que nous qui voyons ça. Mais mes amis, Dieu voit ça. Dieu le voit. Tout comme Dieu voit lorsque nous voulons le servir et il nous sauve. Amen. Et notez que la Bible ne parle jamais, d'accord, de Dieu l'Esprit. Vous n'allez jamais voir dans la Bible l'expression « Dieu l'Esprit ». La raison pour laquelle je vous dis cela, c'est ce qu'on a vu au départ. C'est que les credos nous disent « Dieu le Père », là je suis d'accord, s'il y a marqué « Dieu le Père », « Dieu le Fils », là j'ai un problème. Parce que la Bible me dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et c'est pour cela qu'il est Dieu. Mais à aucun endroit il y a marqué « Dieu l'Esprit » en fait, dans l'Écriture. Mais la Bible me parle de l'Esprit de Dieu et même de l'Esprit de Christ, d'accord? Comme nous l'avons lu en Romains, d'accord? Mais j'aimerais maintenant aborder avec vous le point de l'Esprit consolateur, d'accord? Rendons-nous, avant de considérer le texte de base pour cette partie-là, rendons-nous en 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17. Où allons-nous? De Corinthiens 3, verset 17. Et lisons là. Lisons même à partir du verset 15. OK? Et parlant des Juifs, il déclare, l'apôtre Paul, en 2 Corinthiens 3, verset 15 jusqu'à 17. Encore aujourd'hui, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais quand ils, donc les Juifs, se convertiront au Seigneur, le voile sera ôté. Or, le Seigneur est l'Esprit. Et où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Qui est le Seigneur dont l'apôtre Paul nous parle ici? Le Fils de Dieu, de Jésus. Et que dit l'apôtre Paul? Il dit que le Seigneur est l'Esprit. D'accord? Mais l'apôtre Paul ne dit pas cela que ici. Remarquez 1 Corinthiens 15, verset 45. Voyons-nous? 1 Corinthiens 15, verset 45. On a vu que le Seigneur est l'Esprit. Maintenant, remarquons comment l'apôtre Paul a précisé ça aux Corinthiens. 1 Corinthiens 15, verset 45. Suivant qu'il est écrit, le premier homme, Adam, a été fait une âme vivante. Mais le dernier Adam, et qui est ce dernier Adam? C'est Jésus, mes amis. Ce dernier Adam, Adam, est un esprit vivifiant, l'esprit de vie. L'esprit de vie. Qui est l'esprit de vie, mes amis? Pardon? Vous avez peur de le dire? Vous avez peur d'avoir la vie? Vous avez peur de donner aux gens la vie? Moi, je n'ai pas peur, mes amis. L'esprit vivifiant, c'est l'esprit de Jésus-Christ, mon sauveur. Amen. Maintenant, rendons-nous en Jean 14, verset... nous allons considérer le verset 26... où il nous est dit, où il nous est parlé du Consolateur. Là, on nous dit que le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous remettra en mémoire toutes celles que je vous ai dites. Donc, il est clair que le Saint-Esprit est le Consolateur, n'est-ce pas? Amen. Amen. Remarquez la chose suivante. Remarquez au verset 6 maintenant de Jean, l'évangile selon Jean chapitre 14. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Je vous pose une question simple. Et même le plus petit adorateur qui est derrière pourrait répondre. Qui est-ce qui est la vérité? C'est Jésus la vérité. D'accord. Maintenant, remarquez que le verset 16 à présent, Jésus reprend la parole et dit, « Et je prierai le Père qui vous donnera un autre consolateur pour demeurer éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. » J'arrêterai ici. L'Esprit de vérité? Attendez, qui est la vérité? C'est Jésus. Donc, qui est l'Esprit de vérité? C'est l'Esprit de Jésus, mes amis. Le Consolateur est donc Jésus, en fait. Voyez-vous, pour être capable de consoler et d'aider son peuple, Jésus a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, d'après ce que nous lisons en Hébreux 2, verset 10. Et en Romains 1, verset 3, et en Hébreux 2, verset 17 et 18, il nous a dit que Jésus il a pris sur lui la même nature que nous, la semence d'Abraham. Et dans l'autre texte, on nous parle de la semence de David, la même chair, la même nature humaine déchue que nous, mes amis. Jésus n'est pas venu avec une nature humaine, avec la nature humaine que Adam avait avant le péché. Non, mes amis. Il est venu avec la nature humaine que nous avons, vous et moi. Pensez-vous que ce Jésus, qui a été fait homme, eh bien, Dieu a permis qu'il soit fait homme, comme vous et moi sommes hommes, pour plus tard envoyer quelqu'un de différent pour nous consoler? Pensez-vous que Jésus est venu sur terre, qu'il a été malade, qu'il a été fatigué, qu'il a travaillé 8 heures par jour, comme nous travaillons 8 heures par jour, du dimanche au vendredi, ou peut-être qu'il ne travaillait pas le dimanche, je ne sais pas, il faisait les 5 jours aussi. Mais bref, il était fatigué, il mangeait, il avait des émotions, il était tenté. Pensez-vous que Dieu aurait permis que son fils vienne sur terre pour savoir ce que c'est d'être humain et pour ensuite envoyer quelqu'un de différent pour nous consoler? Moi, je vous dis tout de suite, si c'est ça, cela ne va pas nous consoler, mes amis. Cela ne nous consolera pas du tout. Voyez-vous? J'y arrive, merci. Très bien, j'y arrive. Alors, remarquez la chose suivante, et avant de revenir sur ce point, le verset 15 à 18. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et je prierai le Père qui vous donnera un autre consolateur. » Et c'est là que je vais revenir tout à l'heure. « Pour demeurer éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous. » J'ai une question à vous poser ici. Qui est-ce qui était avec eux sur terre avec les disciples? Le Père? L'ange Gabriel? C'était Jésus, n'est-ce pas? Et Jésus dit que celui qui demeure avec vous, c'est lui qui sera en vous. Est-ce que c'est clair? Est-ce que j'ai violé le texte biblique en vous disant ça? Non! Est-ce que j'établis la doctrine du Saint-Esprit pour vous sur la base de la Bible? Oui? Jean 14, versets 15 et 16 et 17. Le verset 17 très précisément. Mais ouvrez vos Bibles, ne me regardez pas. Ça ne m'intéresse pas que vous me regardiez. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous puissiez suivre dans vos Bibles, mes amis. Car je ne tiens pas à ce que les gens soient accrochés à ma bouche. Voyez-vous, Jésus affirma que l'Esprit... En réalité, ce que Jésus voulait dire ici, en fait, c'est que l'Esprit qui était déjà avec eux, c'est cet Esprit-là qui viendrait et qui serait en eux, en fait. Et voyez-vous, ici, le mot « consolateur » vient du grec « parakletos ». Qu'est-ce que j'ai dit? Le mot « consolateur » vient du terme grec « parakletos ». Et ce terme signifie « intercesseur », personne appelée à côté d'eux. Mais c'est intéressant de voir que dans la Bible, ce terme est présent ailleurs et est traduit d'une manière différente de consolateur. Est-ce que vous savez où et comment? Ah, nous avons des étudiants de la Bible ici. En 1 Jean 2, verset 1, le mot paraclétos est traduit par avocat, mes amis. Donc, Jésus est notre paraclétos, mes amis, notre avocat, notre consolateur. OK? Et c'est le même terme grec. Ça veut dire que en 1 Jean 2, verset 1, les traducteurs auraient pu mettre consolateur. OK? Et est-ce que vous savez qui est-ce qui est celui qui nous console par l'Esprit de Christ, de manière ultime? Quelle est l'être qui nous console par l'Esprit de Christ? Quelqu'un a dit Dieu, d'accord. Alors, j'aimerais vous apporter le texte biblique qui atteste de ce que ce frère a dit. Rendons-nous en 2 Corinthiens 1, versets 2 à 7. Où allons-nous? 2 Corinthiens 1, versets 2 à 7. 2 Corinthiens 1, versets 2 à 7. Là, nous lisons, « La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes nous-mêmes consolés de Dieu, nous puissions consoler tous ceux qui sont dans quelques afflictions. Car, comme les souffrances de Christ abondent en nous, ainsi notre consolation abonde par Christ. Et soit que nous soyons affligés, c'est pour votre consolation et votre salut, qui s'opère dans la patience avec laquelle vous endurez les mêmes maux que nous souffrons aussi. Soit que nous soyons consolés, c'est pour votre consolation et votre salut. » Mes amis, Dieu le Père est l'être qui nous console par Jésus, par l'Esprit de son Fils. Voyez-vous? Est-ce qu'il y a, dans l'enseignement biblique, avec ce que je viens de dire jusqu'ici, une place pour un troisième être distinct et séparé? La Bible nous dit, l'apôtre Paul dit que c'est le Père qui, par l'Esprit du Fils, nous console. Mes amis, à moins d'avoir vécu une expérience similaire, vous ne pouvez pas sympathiser avec quelqu'un. Vous savez, je suis Martiniquais. Je suis né en Martinique. Et j'étais ici en 2007, lorsqu'il y avait la grève. Et je sais comment... 2009, autant pour moi. 2009. Merci, maman. En 2009, lorsqu'il y avait la grève. Et je me rappelle comment la vie était dure. Des fois, ma grand-mère disait, « Entends l'amiral Robert. » La vie a tiré. Mais moi, je m'envoie une raide en 2009. Et vous savez, je peux comprendre ce que c'est. Mais quelqu'un qui sort des États-Unis, qui n'était pas là en 2009, il ne peut pas savoir comment c'est difficile de vivre en Martinique. Vous comprenez? Si vous n'avez pas vécu ce que les gens vivent, vous ne pouvez pas sympathiser avec eux. Or, c'est justement ça le problème avec la doctrine de la Trinité. C'est qu'en fait, un être qui a été inventé dans des conciles, eh bien, on le décrète être notre consolateur, alors qu'il n'est pas descendu sur terre pour verser la moindre goutte de sueur. Il n'a pas été charpentier, il n'a pas travaillé pendant 8 heures par jour. Il ne sait pas ce que c'est d'être fatigué, que d'être tenté. Et on vient nous dire que c'est lui qui vient nous consoler. Mes amis, ça me désespère, ça. Ça me désespère. Ça me désespère. Et vous savez quoi? L'esprit de prophétie va dans le même sens, mes amis. Remarquez cela. Dans The Review and Herald, le 26 août 1890, la raison pour laquelle les églises sont faibles, maladives et sur le point de mourir est que l'ennemi a fait entrer des influences d'une nature décourageante pour les faire subir à des âmes tremblantes. Il a cherché à cacher à leur vue Jésus comme étant un consolateur, leur consolateur, quelqu'un qui reprend, qui avertit, qui les exhorte. Mais ce n'est pas tout. En abondance, d'accord? Manuscrit Ulysses, volume 19, à la page 297 et 98. Alors que par la foi, nous regardons à Jésus, notre foi perd sur l'obscurité et nous adorons Dieu pour son amour merveilleux en donnant Jésus le consolateur. Et ce n'est pas tout, hein. Dans The Review and Herald, le 27 janvier 1903, qu'ils étudient le 17e chapitre de Jean et qu'ils apprennent comment prier et comment vivre la prière de Christ. Il est le consolateur. Il demeurera dans leur cœur, rendant leur joie complète. Ses paroles seront pour eux comme le pain de vie. Et remarquez l'expérience de l'auteur maintenant. Dans Manuscrit Polysis, volume 8, page 49, « Le Sauveur est notre consolateur, cela, j'en ai fait l'expérience. » Je vais vous poser une question. Demain après-midi, si vous ne venez pas Bousquet Libre, vous allez appeler votre pasteur. Si vous connaissez un pasteur adventiste du 8e jour, ou n'importe qui de l'organisation, d'accord? Si vous n'êtes pas adventiste, contactez votre responsable religieux et demandez-lui quelle est son expérience, d'accord? Mais j'ai commencé par les pasteurs adventistes parce que cet auteur était une adventiste du 7e jour, d'accord? Et notez que tout ce que je dis, je le prends d'abord dans la Bible et après, je vous présente ce que cet auteur déclare. Et je vous montre que cela est en harmonie avec ce que la Bible dit, d'accord? Cet auteur, qui est un auteur adventiste, Ellen White, déclara que son expérience, par son expérience, eh bien, elle savait que le Sauveur est notre consolateur. Aujourd'hui, malheureusement, lorsque vous allez poser la question au pasteur adventiste du 7e jour, quel que soit le pays dans lequel il travaille, ils ne pourront pas vous dire ça, mes amis. Ils ne pourront pas vous dire ça. Or, pourtant, croire dans le don de prophétie qui a été manifesté dans le ministère de la sœur White fait partie des 28 croyances fondamentales. Mais alors, si Jésus est le consolateur, pourquoi nous a-t-il parlé d'un autre consolateur? N'est-ce pas, ma sœur? C'est cela que tu voulais dire? Un autre, voilà. So, Ira, can you bring my water for me, please? Dans le texte que nous avons, rendons-nous en Jean. Come here with me. No, just take that one. Only one. But take that one with you. Okay. Take that one with you. Okay. Come here with me. Okay. Alors, en Jean 14, et au verset 16, Jésus dit, « Et je prierai le Père qui vous donnera un autre consolateur pour demeurer éternellement avec vous. » Le mot « autre » ici, dans ce verset, vient du grec « allos ». Qu'est-ce que j'ai dit ? Vient du grec « allos ». Et ce terme « allos » signifie un autre, mais de la même nature, d'accord? Ce qui est en opposition avec le terme grec « hétéros », d'accord? Qui signifie un autre, mais d'une nature différente, ok? Can you give me a glass of water, please? Je vais lui demander, est-ce qu'elle peut me donner un verre d'eau? Parce que j'ai très soif. Stop, thank you. Donne-moi un autre verre d'eau. Give me another glass of water. Thank you. Je lui ai demandé un autre verre d'eau. Mais est-ce qu'elle m'a donné l'eau de la bouteille qui est derrière? Non. Elle m'a donné davantage de la même eau. Eh bien, vous voyez l'illustration. Thank you. Vous voyez l'illustration que nous venons de faire, c'est exactement ce que signifie allos que Jésus a employé ici. C'est-à-dire davantage du même en fait. Ce n'est pas hétéros. Parce que si j'étais un grec et que je disais give me an hétéros, donne-moi un hétéros, elle m'aurait pris l'autre bouteille et m'aurait donné une autre différente. Mais là, c'est autre. Nous, notre français, il est faible, il ne fait pas la distinction entre les deux. Mais le grec est précis. Et dans le grec ici, mes amis, c'est allos. Et c'est davantage du même. Donc, demandez, lorsque j'ai demandé à ma sœur un autre verre d'eau, je ne lui ai pas demandé une eau différente. D'accord? Ainsi, recevoir un autre allos, consolateur, eh bien, signifie, Jésus voulait tout simplement signifier qu'ils allaient recevoir davantage du même. Celui qui était avec eux, il allait être en eux. OK? Ça n'a pas dit fort, hein? Dis ça plus fort, mon frère.
Jésus l'a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin.
Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Et c'est ce qui est marqué à la fin du verset 16. Pour demeurer éternellement avec vous, l'autre consolateur. Amen? Amen. Et voyez-vous, en se référant à lui comme un consolateur, Jésus ne faisait pas une chose étrange. Parce que lorsqu'il dit un autre consolateur, on pourrait se dire, oui, mais pourquoi il parle à la troisième personne du singulier? Moi, quand j'étais au lycée, j'avais un professeur, j'ai oublié son prénom, mais c'était une prof de gestion, et à chaque fois qu'elle s'adressait, à chaque fois qu'elle parlait, okay, elle parlait à la troisième personne du singulier. D'accord? Mais pourtant, elle faisait allusion à elle, en fait. D'accord? Mais voyez-vous, Jésus fait la même chose à d'autres endroits. Lorsqu'il dit le Fils de l'homme, lorsque le Fils de l'homme viendra sous les nuées des cieux, vous connaissez ces textes-là? Est-ce qu'il fait allusion à un autre Messie, à lui-même? Et pourtant, nous n'avons aucun problème à voir que c'est de Jésus qu'il s'agit. Alors pourquoi devrions-nous avoir un problème lorsque Jésus ici parle de lui à la troisième personne du singulier et qu'il précise, qu'il veut mettre l'emphase en fait sur son esprit qui serait en eux? Et remarquez la chose suivante. Dans ma disculpe, et une fois que nous avons établi ça encore une fois avec la Bible, je vous montre que l'auteur déclare la même chose que ce que la Bible enseigne, mes amis. Manuscrit Lézis, volume 14, page 23. Encombré de l'humanité, Christ ne pouvait pas être personnellement en tout lieu. C'est pourquoi il était avantageux pour eux qu'il les quitte, qu'il aille vers son Père et qu'il envoie l'Esprit Saint pour qu'il soit son successeur sur la terre. L'Esprit Saint est lui-même dépouillé de la personnalité humaine et indépendant de celle-ci. Il allait se représenter lui-même comme l'omniprésent, partout présent par son Saint-Esprit. Lorsqu'il était dans l'humanité, sur terre, notre Sauveur ne pouvait pas être présent partout à la fois. Il avait des limites, d'accord, de par son incarnation. Mais une fois qu'il est monté au ciel, là, il pouvait, comme avant d'être venu sur terre, il n'avait plus la barrière de l'humanité telle que nous l'avons maintenant, mais il a dépouillé la personnalité humaine et indépendant de celle-ci, il s'est présenté lui-même. D'accord? Et voilà l'explication, mes amis, qu'apporte l'auteur. Voilà le commentaire que fait Ellen White concernant ce texte. Vous savez, j'ai déjà présenté cette déclaration à des personnes en charge dans l'Église adventiste du septième jour. Et les gens m'ont dit, dans la phrase « l'Esprit Saint est lui-même », ils m'ont dit que le « lui-même », c'est le Saint-Esprit. Mes amis, quiconque a étudié le français, ne serait-ce qu'au CM2, est capable de voir que ici elle dit que Jésus-Christ est le Consolateur, mes amis. Dans Manuscrit Lysis, volume 14, à la page 179, elle dit « Il n'est pas essentiel pour vous de connaître et d'être capable de définir ce qu'est précisément le Saint-Esprit. Christ nous dit que le Saint-Esprit est le Consolateur, et le Consolateur est l'Esprit-Saint, l'Esprit de vérité que le Père enverra en mon nom. Je prierai le Père et il vous donnera un autre Consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. » Cela se réfère à l'omniprésence de l'Esprit de Christ appelé le Consolateur. Jésus dit encore, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il est de nombreux mystères, et elle continue, que je ne cherche pas à comprendre ou à expliquer. Ils sont trop élevés pour moi et trop élevés pour vous. Sur ces points, le silence est d'or. La piété, la dévotion, la sanctification de l'âme, du corps et de l'esprit, c'est là ce qui est essentiel pour nous. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Vous savez, dans les livres de l'Apocalypse, vous avez les lettres aux sept églises. Vous avez déjà lu l'Apocalypse ici? D'accord. Et comment se ponctue chacune de ces lettres? Il est dit quoi? Voici ce que l'Esprit dit aux églises. D'accord? Mais c'est qui est identifié au début de chaque lettre, comme étant l'orateur? C'est Jésus. Et pourtant, il termine en disant, voilà ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Etc. Cette fois. Et l'Apocalypse, vous savez ce que ça signifie? C'est la révélation de Jésus-Christ. Nous avons peur, beaucoup de personnes ont peur de ce livre. Et mes amis, c'est la révélation de Jésus-Christ. Ça veut dire que si vous voulez bien connaître Jésus-Christ, vous devez être de bons étudiants de l'Apocalypse, mes amis. J'aimerais maintenant vous montrer encore quelques points, et je dois m'arrêter là. J'aimerais vous... Le temps m'est compté, mais... OK. Rendons-nous en Joël, chapitre 2, verset 23. Voyons-nous. Et ici, nous allons lire la prophétie qui annonça ce qui s'est passé lors de la Pentecôte, qui était la pluie de la première saison, mais également, cela annonçait ce qui allait se passer lors de la pluie de l'arrière saison. Et en Joël 2, verset 23, nous lisons, « Et vous, enfants de Sion, égayez-vous et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donne la pluie de la première saison dans une juste mesure, et il vous envoie une pluie abondante de la première et de la dernière saison comme autrefois. » Est-ce que vous vous rappelez de ce que nous avons vu en Deutéronome 32, verset 2? Tout à l'heure là-bas, en Deutéronome 32, verset 2, on a lu que « Ma doctrine coulera comme de la pluie », n'est-ce pas? OK. Ici, l'expression « pluie de la première saison » vient de l'hébreu « moré ». Et ce terme signifie, entre autres, « enseignant, enseignement ». Et dans une juste mesure, quant à elle, vient de « tzedaka », qui signifie « justice ». Autrement dit, lorsque vous traduisez le verset avec cette signification, vous comprenez que pour recevoir la pluie de la première saison, c'est en fait recevoir, accepter un enseignant ou un enseignement de justice, mes amis. Un enseignement concernant la justice. Un enseignant concernant la justice. Et quelle justice? La justice du Christ, mes amis. La justice par la foi. Amen. Dans beaucoup d'églises, on a l'impression que, et beaucoup de gens pensent que recevoir le Saint-Esprit, c'est, il y a une puissance comme ça qui tombe sur nous, spontanément, on fait juste une prière et l'Esprit arrive sur nous, boum, et on tombe en transe et il se passe des choses bizarres. Mais mes amis, c'est pas ça, c'est pas ce qui s'est passé, mes amis. C'est pas ce qui s'est passé lors de la Pentecôte et c'est pas ce qui va se passer lors de la pluie de la saison, mes amis. Il y a un message d'abord qui est donné, un enseignement, une doctrine concernant la justice par la foi, mes amis. Et d'ailleurs, remarquez au passage que lorsqu'ils ont reçu la pluie de la première saison, eh bien, les disciples, il n'y a pas eu de résurrection, ok? Il n'y a pas eu de guérison qui se sont faites. La seule chose qui s'est faite spontanément, c'était qu'ils ont parlé d'autres langues, mes amis. D'accord? Et donc, il nous faut ce message. Et voyez-vous, ce que nous voyons dans la Bible, eh bien, l'auteur va le confirmer également. Dans The Ellen G. White, 1880 in Materials, à la page 1814, elle déclare « Le Seigneur a suscité le frère Jones et le frère Wagoner pour proclamer un message au monde afin de préparer un peuple se tenant debout au jour de Dieu. » Ici, pour ceux qui ne les connaîtraient pas, ces deux hommes, c'était deux pasteurs de l'Église adventiste et qui ont donné un message concernant la justification par la foi. D'accord? Et concernant ces hommes et leur œuvre, elle déclara « Le monde souffre d'un besoin de lumière supplémentaire se déversant sur eux par les Écritures. Une proclamation supplémentaire des principes de pureté, d'humilité, de foi et de la justice du Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Remarquez, elle parle d'un déversement. Lorsque vous employez le mot déversement, mes amis, c'est pour un liquide. Donc pour de la pluie, par exemple. Et là, elle dit, elle fait allusion à un enseignement. Le déversement d'un enseignement concernant la justice du Christ, mes amis. Dans Sign of the Time, le 18 avril 1900, Dieu désire que le message de la rédemption vienne sur son peuple comme la pluie de l'arrière-saison, car il perd rapidement sa relation avec Dieu. Sans le message de la justice par la foi, mes amis, il ne peut pas y avoir de pluie de l'arrière-saison. On ne peut pas recevoir la plénitude de l'Esprit de Dieu. Et voyez-vous, ces auteurs, Jones et Wagoner, ne croyaient pas en la Trinité. Et l'auteur déclare, dans d'autres déclarations que je n'ai pas pris le temps et que je n'ai pas le temps de vous présenter, elle dit que si le message avait été accepté, nous l'aurions prêché et 2 ans après, nous aurions été dans le royaume. Et à cette époque-là, mes amis, la dénomination n'enseignait pas la Trinité. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Excusez-moi, je vais devoir être très, très grave ici, mes amis. Si vous êtes un adventiste du septième jour, et quelle que soit la religion que vous professiez, mais je dois le dire, je le dis avec beaucoup d'amour, mais je vais juste dire la vérité, et ne m'en voulez pas. Mais si vous croyez en la Trinité, vous ne pourrez jamais recevoir le Saint-Esprit dans sa plénitude. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous savez, vous allez entendre des pasteurs vous dire, parce que vous êtes venus ici, et vous allez l'entendre sous les ondes peut-être, ok, qu'il y a 3 pasteurs qui sont venus ici pour dire que le Saint-Esprit n'existe pas. Est-ce que je vous ai dit que le Saint-Esprit n'existe pas? Ah, d'accord. Ok, bon, c'est bien. Donc, si on vous pose des questions sur mon enseignement, vous saurez répondre. D'accord. Ah, d'accord. Vous avez vu qu'on a posé tout sous la Bible. D'accord. Prenez les documents du Concile de Nicée ou de Constantinople et vous allez voir combien de fois la Bible est citée. Vous allez voir. Mes amis, vous allez entendre dire que le Saint-Esprit n'existe pas. Et les gens vont vous dire, « Ah, ces prédicateurs-là, ils pêchent contre le Saint-Esprit. » Et ça, c'est le péché impardonnable parce qu'ils ont rogné le Saint-Esprit. Vous savez, lorsque Jésus a donné l'enseignement sur le péché contre le Saint-Esprit, qu'est-ce que les Juifs rejetaient? Ils rejetaient l'œuvre de Christ. Christ avait fait un miracle, et vous pouvez le noter en Matthieu 12, versets 22 à 32, et je ne prenais pas le temps de le lire. Prenez-le chez vous et examinez ça. Vous allez voir que Christ a fait un miracle et les responsables juifs sont arrivés et qu'ils ont dit qu'il a fait ça par la puissance de Belzébul. D'accord? Et que c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Mais Jésus leur a fait comprendre que non, en fait, vos fils, si moi je le fais, mais vos fils par qui ils le font? Et à la suite de ça, ils ont été confus et il leur a donné l'enseignement concernant le péché contre le Saint-Esprit. En résumé, mes amis, le péché contre le Saint-Esprit, c'est qualifier une œuvre de Dieu de satanique et vice-versa, en fait. Une œuvre de Satan, eh bien, dire que c'est une œuvre de Dieu, en fait. Donc, lorsque Jésus sur terre accomplissait les miracles, eh bien, lorsque les gens disaient que « Ah, travail diable à qui là ?» Lorsque les gens qui faisaient ça, ils étaient en train de pécher contre le Saint-Esprit, mes amis. Et, voyez-vous, l'auteur va aussi dans le sens, mes amis, de la Bible. Remarquez ça. Dans The Review and Herald, le 29 juin 1897, personne n'est contraint de voir le péché contre le Saint-Esprit comme quelque chose de mystérieux et d'indéfinissable. Le péché contre le Saint-Esprit consiste en un refus persistant de répondre à l'invitation de se repentir. Si vous refusez de croire en Jésus-Christ comme en votre sauveur personnel, vous aimez les ténèbres plus que la lumière. Vous aimez l'atmosphère qui entourait le premier grand apostat. vous choisissez cette atmosphère de préférence à l'atmosphère qui entoure le Père et le Fils, et Dieu vous permet de suivre votre choix. Est-ce que vous avez déjà vu cette déclaration dans un ouvrage vendu à Vie et Santé? Pourquoi? Pardon? Ça dérange. Mais qu'est-ce qui dérange? L'auteur dit que le péché contre le Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose de mystérieux et d'indéfinissable. Autrement dit, on peut le définir. Et elle vous dit après ce que c'est. Elle dit, c'est vous choisissez, en fait. C'est le fait de choisir l'atmosphère qui entoure le premier grand apostat plutôt que de choisir celle qui entoure le Père et le Fils. D'accord. Je vous pose une question. Lorsque vous êtes baptisé dans les églises chrétiennes aujourd'hui, dans combien, dans quelle doctrine vous devez croire? À la Trinité. Donc, vous entrez dans l'atmosphère de trois êtres. Or, l'auteur nous dit que le péché contre cet esprit, c'est refuser l'atmosphère qui entoure deux êtres. Donc, lorsque vous allez entendre sous les ondes que le prédicateur pêche contre le Saint-Esprit et qu'il ne croit pas dans le Saint-Esprit, pensez bien à dire à ces messieurs que c'est eux qui pêchent contre le Saint-Esprit. Mes amis, en Apocalypse 16, il y a des esprits mauvais qui sortent de la gueule du dragon, de la bête et du faux prophète pour séduire toute la terre. Et cela va avoir lieu par des enseignements de démons, mes amis. Tout comme Dieu désire répandre son esprit par l'enseignement de la justice, le diable aussi répand son esprit par de faux enseignements. C'est pour cela que nous devons être très vigilants et nous devons accepter ce que la parole de Dieu a à nous dire concernant cela. Est-ce que nous voulons être consolés par Jésus, celui qui a vécu sur cette terre, le seul qui est capable de pouvoir véritablement nous consoler? Moi, je le veux, voyez-vous. Et comme je le veux, ma conscience m'oblige, mes amis, à jeter par terre et à éloigner de moi tout ce qui m'empêche d'accepter Jésus. Toutes les compréhensions que des hommes, dans des siècles reculés, bien après que Jésus soit mort. Vous vous rendez compte de ça? Jésus est venu sur terre. S'il avait quelque chose à nous dire de très précis concernant la Trinité, pourquoi il n'y a pas un seul verset de sa bouche pour nous dire cela? Pourquoi il faut attendre 3 ans, 4 ans après pour avoir une doctrine qui est pondue et à laquelle on croit? Mes amis, la première question que je vous ai posée lors de ma présentation, c'est est-ce que vous croyez que la Bible est la parole de Dieu? Vous m'avez dit que oui. Je vous ai posé une deuxième question. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Maintenant, je vous pose une troisième question. Est-ce que vous voulez suivre la parole de Dieu, mes amis? Alors, priez avec moi. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Merci pour ton Saint-Esprit que tu désires nous accorder afin que nous puissions recevoir la puissance et l'Esprit de Christ. Tu désires que cette pensée soit en nous, là qu'elle était également en Jésus-Christ. Et Père, nous reconnaissons que nous avons besoin de notre Sauveur, lui qui a vécu sur cette terre. Nous avons besoin de sa consolation. Et merci de ce que tu désires nous consoler à travers Jésus, ton Fils. Bénis-nous et continue à être avec nous durant la suite de ce programme. Nous t'en prions et t'en remercions dans le beau nom de Jésus et pour ta gloire, Père. Amen. Amen.
Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.